Écrit d'ici avec le Ciala. C-I-A-L-A.
Collectif interculturel d'auteurs de Loire-Atlantique.
Rencontrer un auteur, ça vous dit ?
Alors retrouvez-nous le deuxième mercredi du mois à 17h30 sur Jet FM 91.2 et le quatrième mercredi du mois, toujours à 17h30, toujours sur Jet FM 91.2.
Ou en podcast sur jetfm.fr.
Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour Martine.
Bonjour.
Bonjour Didier Colpin.
Bonjour Florence, bonjour Martine, merci de m'avoir invité et de me recevoir sur les ondes de Jet FM.
Écrit d'ici, l'émission qui donne la parole aux auteurs reçoit aujourd'hui Didier Colpin pour son recueil de poèmes « Les sonnets de l'Arche », paru en janvier 2025 aux éditions KDP. Didier Colpin est un auteur aguerri depuis une bonne quinzaine d'années, de nombreuses publications, des textes primés. Dernièrement, un texte retenu sur Radio Arte pour un podcast pour le 4e anniversaire de la libération d'Auschwitz. Un texte qui s'intitule « La haine du pire », mais ce ne sera pas notre objet encore, en tout cas aujourd'hui. Alors Didier, malgré tout ces distinctions, nous avons dire, et cette grande pratique, on va commencer par notre question rituelle. Pourquoi l'écriture ? Comment on se met à écrire ? Quelle place un peu dans ta vie ?
Alors l'écriture, un jour quelqu'un qui maîtrisait également, qui maîtrise toujours la poésie, me disait dans le contexte d'un échange qui n'avait rien de poétique, pour me dire ce que tu viens de me dire, il faut avoir l'écriture en soi. C'est une phrase qui m'a interpellé, qui m'a rappelé que j'avais sous le coude quelques pages écrites lorsque j'étais adolescent, c'était de la prose que j'avais conservé, et à la même époque, j'ai découvert un site qui n'existe plus à présent, qui s'appelait Je Poème. Et la particularité de ce site, c'est que tout le monde pouvait venir y déposer du texte, prose, vers libre ou poésie. Donc j'ai déposé moi mes quelques pages de prose, et puis de fil en aiguille, puisqu'elles pouvaient être commentées, je me suis pris au jeu. J'ai commencé par faire entre guillemets de la poésie qui était complètement libre, car j'ignorais tout des règles de la prosodie. Et puis la mayonnaise a pris, et avec le temps, relativement rapidement, je me suis intéressé aux règles de la poésie néoclassique. J'y ai pris goût. Et maintenant, je ne sais plus écrire autrement, et tous mes écrits, abondants, comme c'était souligné à l'instant, sont rimés.
Merci.
Sonnet de l'Arche, c'est le titre un peu énigmatique du dernier recueil de poésie de Didier Colpin. Que ce soit dans leur forme courte ou un peu plus longue, les poèmes sont comme des apostrophes au lecteur sur notre monde tel qu'il va, pas très bien, et sur la condition humaine peu réjouissante. On sent une pointe d'humour teintée d'un zeste de cynisme ou de lucidité, diront certains.
Alors peut-être dans le droit fil du résumé, quand on s'adonne à la lecture des sonnets de l'Arche, et donc que l'on lit poème après poème, on a l'impression de distinguer un petit fil conducteur, hein, petite musique de fond autour de l'idée du leurre, de la désillusion, que ce soit alors pour les deux sujets phares, hein, comme tu peux le dire d'ailleurs dans cet ouvrage, à propos de l'amour ou à propos de la vie, il y a quelque chose un peu comme si tout n'était qu'illusion ou toujours un peu décevant. Il y a quelques poèmes d'ailleurs dont le titre l'annonce, hein, « Arnaque, chimériquement, magnifique leurre », etc., etc. Est-ce que c'est une vue de nous lectrices ou voilà, est-ce qu'il y a quelque chose autour de cela dans les poèmes ?
Alors tu as cité deux fils conducteurs, La vie, l'amour.
Ouais.
Hein ? C'est le début du titre d'un film de 1968, La vie, l'amour, la mort. Et effectivement, tout se termine d'une façon tragique. Et ce constat, je pense que tous les hommes l'ont, toutes les femmes l'ont, et il a été porté, souligné et glorifié par tous les poètes. Parce qu'effectivement, lorsqu'on est ado, d'une part, lorsqu'on voit quelqu'un qu'il ait 50, 60, 60, c'est un vieux. Lorsqu'on est ado, on les voit ainsi. Et puis lorsqu'on avance en âge, on se rend compte qu'effectivement, toutes les belles idées que l'on pouvait avoir, les éventuels idéaux, sont ramenées d'une manière tragique à la réalité de ce qu'est notre vie, notre temps, c'est-à-dire une grande finitude. Alors effectivement, il y a de la désillusion dans mon écriture, je ne la renie pas, je ne la recherche pas non plus, c'est quelque chose qui s'impose d'une manière tout à fait naturelle à ma plume.
Enfin, tu soulignes quand même dans beaucoup des poèmes, quand Florence parlait d'illusion, c'est que même si on le sait, on fait comme si c'était comme si on était éternel, quoi. Et mais que je trouve que justement dans tes poèmes, c'est ramené vraiment à notre condition, quoi, en fait.
On vit dans un déni et on peut pas vivre autrement, bien évidemment. Et ce déni fait notre réalité, fait également notre transcendance. Parce que pour le mettre de côté, on est obligé de le transcender avec un idéal, avec un humanisme. Et puis c'est chacun qui voit midi à sa porte dans le domaine.
Ok. Est-ce que la forme du... Excuse-moi.
Vas-y.
Est-ce que la forme, justement, cette introduction pour les poèmes courts, qu'on lit, qui sont extrêmement faciles, mais ce n'est pas péjoratif du tout. Hein. Je veux dire, c'est une lecture aisée qui est... qui est très agréable, qu'on lit, et mais qui va droit à l'essentiel, je dirais, quoi. Et la forme de donc cette introduction, les petites strophes, la conclusion, les rimes, qui donnent cette aisance de lecture. Est-ce que ça en fait partie, ça?
Alors la forme, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas écrire autrement que d'une manière rimée. Et cette forme a ses propres contraintes. Alors, il y a des mots, par exemple, le mot pauvre. Il n'y a pas de rime. Donc c'est embêtant. Alors c'est normal, c'est pauvre. Bon. Par contre, le mot riche a beaucoup de rimes. C'est normal aussi, c'est riche. Bon. Mais lorsqu'on fait le choix d'une poésie rimée, il y a des contraintes. Et comme celle-ci, donc on va pouvoir retomber sur des mots qui sont redondants. Donc la difficulté va être, malgré ces contraintes, d'essayer de trouver quelque chose de novateur pour ne pas se lasser soi-même, pour ne pas lasser le lecteur et pour ne pas avoir des remarques qui pourraient être désobligeantes. Et c'est un peu dans cet objectif-là que naturellement s'est imposé à moi, sans que je la recherche, cette forme de sonnet en forme d'arche, comme étant une forme novatrice pour effacer un fond redondant. Et puis avec le temps, je me suis rendu compte que finalement, cette forme qui revenait, puisqu'elle est revenue pendant tout le deuxième semestre de l'année dernière, maintenant elle est là en alternance avec des formes plus classiques, s'enferme aussi. Je me suis piégé moi-même et je me suis enfermé également dans une innovation qui n'en était, au bout du compte, qui n'en était plus une.
D'accord. Alors, très intéressant, ça fait le lien avec une autre question qui est apparue à la lecture. C'est à la fois, tu disais tout à l'heure, la poésie est un genre extrêmement codé, contrairement à ce qu'on peut croire le béotien. Et en revanche, ça donne une extrême grande liberté, je trouve, à la lecture, sur les thématiques, sur selon les codes utilisés. Et je me dis, il y a un paradoxe. Est-ce que c'est ça qui est intéressant quand on est un poète?
Alors, la liberté dans la lecture, elle est évidente. On prend un roman, si par exemple c'est un pavé de plusieurs centaines de pages, c'est difficile de l'ouvrir au milieu et puis de se plonger dans la lecture, de le refermer le lendemain pour le reprendre 3 jours après et d'ouvrir au début. Bon. Pas. Il y a une continuité dans l'écrit. Alors que c'est l'avantage de la poésie, on peut prendre un recueil de poèmes et l'ouvrir à n'importe quelle page, en quelques secondes, on a un début, on a une fin. Et c'est également vrai pour tous les poèmes de tout le monde et de tous les livres. Alors c'est également une autre liberté que l'on trouve, c'est qu'il n'y a pas du tout l'obligation de cohérence. Je m'explique. Lorsque quelqu'un fait un roman historique, quel qu'il soit, il y a une intrigue, bien évidemment, éventuellement une thèse, une antithèse, une synthèse. Il faut donc qu'il y ait une cohérence, une histoire qui conduise le lecteur du début à la fin. Alors que dans la poésie, j'assume mes contradictions. Et j'en suis même fier, heureux et content. C'est-à-dire que je n'aime pas la réflexion, parce que la réflexion, peut-être que ça demande un effort intellectuel que je n'ai pas envie de développer en ce moment. Et puis la réflexion impose une certaine logique. Alors que moi, je préfère à la réflexion me laisser porter par des émotions. Et ces émotions me permettent d'aller sur des sujets qui sont très divers. Par exemple, il y a des expressions qu'on connaît comme être chien et chat, pour faire un choix, être chien et chat. Si on demande à quelqu'un quel est le contraire du feu, il va vous dire l'eau. Si vous demandez à quelqu'un d'autre quel est le contraire du jour, il va vous dire la nuit, etc. Eh bien, moi, je veux tout vivre. Ça veut dire pourquoi je devrais choisir entre chien et chat. J'estime qu'on peut tout à fait, à un moment de notre vie, de notre existence, dire « Ah, c'est beau, un feu de bois, c'est joli, c'est agréable. » Et puis dire « Ah, une étendue d'eau, qu'est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que c'est reposant. » On peut dire « Ah, le jour, j'aime la vie. » Là, de la fenêtre de vos studios, je vois les feuilles avec leur verdure qui dansent dans le vent et dans le soleil. Et puis on peut se dire « Qu'est-ce que c'est beau la nuit. » Donc, dans la poésie, je peux dire « Un jour blanc » et je peux dire « Un autre jour noir ». Et dans cette apparente contradiction, dans ces apparences contradictions, il me semble que je touche, et que le poète en général touche, ce qui est l'essence de l'humanité. Parce que si on réfléchit nous-mêmes sur ce qu'est notre propre vie, on gère nous-mêmes des contradictions. On n'est pas monolithique, on est fait de contraires que l'on doit assumer. Et la poésie permet, en ce qui me concerne, d'assumer toutes ces contradictions et même de les revendiquer sans en avoir nullement honte.
Mais tu disais là que toi, tu ne veux pas développer des réflexions, enfin une réflexion particulière. Par contre, nous, en tant que lecteurs, enfin moi, je parle pour moi, parce que bon, j'ai trouvé qu'il y avait quand même plein de poèmes qui suscitent de la réflexion, qui peut susciter de la réflexion.
Alors, première partie de ta question, Martine, c'est le propre de l'art. Ce que tu viens de dire ici. Parce que l'interprétation, dans la poésie comme dans les autres formes d'art, l'interprétation appartient à celui qui reçoit l'œuvre, appartient au lecteur. Je vais prendre un exemple qui est connu, Gustav Mahler, le compositeur classique. Était dépressif. Il se dit que sa cinquième symphonie est suicidaire. Mais quelqu'un qui n'est pas dépressif, dans cette cinquième symphonie, lui, il va percevoir tout autre chose. Et c'est ça aussi la réalité de l'art. Eh bien, dans un poème, moi, je sais ce que je dis, je sais aussi ce que je ne dis pas en creux. Si un lecteur y perçoit tout à fait autre chose, je n'ai nullement envie de le contredire parce que l'interprétation appartient au lecteur. Alors, dans la deuxième partie de ta question, tu me disais qu'il y a quand même de la réflexion. Alors, je vois ce que tu veux dire.
Donc, ça suscite, ça peut susciter.
Ça peut susciter de la réflexion, tout à fait. Parce que la poésie Bisounours, sur le beau petit chant des oiseaux, ça ne m'intéresse pas. Je peux écrire sur la beauté des oiseaux. Tout de suite, je parlais de ces feuilles qui dansent devant moi et qui m'émerveillent toujours. Je peux le faire, mais je ne vais pas faire que cela. Et l'absence de recherche de synthèse dans un poème fait que l'on peut creuser une contradiction, on peut creuser une idée particulière, en étant guidé par une émotion, bien évidemment, mais en ayant bien conscience, puisqu'elle n'est pas Bisounours, que derrière, bien, celui qui va la recevoir va être interpellé et va éventuellement penser ceci ou penser cela. Et je m'en réjouis.
Alors, c'est l'heure de la pause musicale. Donc, tu nous expliqueras après. On va d'abord passer la chanson. Dans l'impasse d'un effroi, interprété par Franklin Hamon.
Lorsque tout passe à la trappe, lorsque meurt le souvenir, quand aujourd'hui nous décape, hier vite c'est périr. Redoutable est cette absence, c'est l'esprit qui perd le nord au sein. peindre cette indécence nous sourit déjà la mort. Confrontés à cette épreuve, les vivants sont contre un mur d'événements qui ne s'émeuvent, et que dire du futur? Souvent ainsi va la vie, toute eau doit s'évaporer, invincible étourderie qui saigne ou déshonorée. L'enfant reconnaît sa mère, et lorsqu'elle part trop tôt, sa mémoire qu'éphémère la mettra sous le manteau. Ici brille aussi ce pire, affligeant ce constat crosse de nous contredire. Jamais il ne plaisanta.
Vous êtes bien sur Jet FM 91.2 dans l'émission du Ciala Écrit d'ici. Nous recevons aujourd'hui Didier Colpin pour son recueil Sonnet de l'Arche.
Alors, certains de tes textes ont été mis en musique. Donc là aussi, question un peu ouverte. Comment on en vient à mettre des textes, des poèmes en musique? Alors des histoires de rencontres, des histoires d'opportunités, ou alors des vraies envies que ces textes soient mis sur des notes?
Alors c'est vrai qu'en ce qui me concerne, être mis en musique, être chanté, c'est une fantasmagorie. Il y a des gens qui ont ce talent, qui sont auteurs-compositeurs, qui en plus ont l'avantage pour certains d'avoir une belle voix, qui sont donc auteurs-compositeurs-interprètes. Je m'en réjouis, je suis toujours admiratif, mais ce n'est pas mon cas. Moi, je ne sais qu'écrire. Et ne me demandez pas de chanter, par respect pour vos auditeurs, il ne faut mieux pas.
Bref. Ce n'est pas au programme.
Alors, il y a des gens qui écrivent et qui mettent dans leur tiroir. Pourquoi pas, c'est respectable. Pour eux, ça peut être qu'une thérapie, très bien. Ce n'est pas mon cas. Moi, j'écris pour être lu. Donc la question de la diffusion se pose. Dans le marché du livre français aujourd'hui, la poésie, c'est 0,05% de l'intégralité du marché. Et là-dedans, il y a le théâtre, il y a les classiques qu'on fourgue aux gamins en septembre. Donc il ne faut pas compter sur la vente de livres pour être connu, tout au moins dans la grande majorité des cas. Mais en même temps, paradoxalement, le milieu de la poésie, qui est donc dans le marché du livre très résiduel, est un milieu qui est extrêmement vivant. Il y a de nombreux poètes, il y a de nombreuses revues de poésie. Et je me fais connaître beaucoup par des revues, mais également par des diffusions sous forme de mailing. J'ai dans tous les mois, je diffuse auprès de 1400 personnes à peu près, mes poésies du mois, ce que j'appelle le récapitulatif. Alors cela ne veut pas dire qu'il y a 1400 personnes à me lire, parce que je ne le suis peut-être pas, bon bref, mais qu'importe. Et un jour, ça répond à ta question, grande surprise, je reçois un mail de quelqu'un que je ne connais pas du tout, donc Franklin Hamon, qui a été cité par Martine, et qui me dit « Bonjour, est-ce que vous accepteriez que je mette sur ma chaîne YouTube plusieurs de vos poèmes que j'ai mis en musique ?» Il m'en envoie deux, trois exemples. Une bénédiction. Allez-y, allez-y. Et donc ce monsieur avec qui j'ai correspondu, on se parle parfois par téléphone, qui est de Caen, je ne connais pas, jamais vu. Et comment est-ce que lui-même a rencontré mes poèmes, je ne le sais pas. Il s'est trouvé dans un mailing, par rebond, quelqu'un lui... Bref. Et il m'a envoyé cela, donc il met en musique, il fait de très belles images.
Hein, oui, j'ai vu, les images, elles sont... Notamment le premier, celle-là, je trouve. Mais bon, après, c'est pareil, c'est personnel. Les photos sont magnifiques.
Oui, il fait de très belles images.
Ouais.
Et donc, il a eu mon accord complet et parfait pour ainsi utiliser mes poèmes. Et je l'en remercie toujours avec beaucoup de sincérité.
Une belle histoire.
Ah, oui, tout à fait, tout à fait.
Alors pareil, on est autour plutôt, on va dire, de la technique, mais donc là, c'était la question de la mise en musique. Au vu, je dirais, d'une production, comment dirais-je, luxuriante d'écrit, on a envie de savoir un peu comment ça écrit un poète. Alors peut-être que c'est une question un peu facile ou un peu pas facile, mais en si peu de temps, mais voilà. Parce qu'en fait, tes poèmes, pour partie, sont très ancrés dans le réel. À plusieurs moments, hein, d'ailleurs, dans l'ouvrage, tu cites l'effet déclenchant de l'écriture. Hein, et ça, c'est vraiment très intéressant quand on est lecteur ou lectrice. Mais voilà, parce que là, il y a vraiment une écriture quotidienne, journalière. Enfin, on a une impression vraiment de production intense.
Alors, elle l'est, puisque ce recueil-là, Sonnet de l'Arche, qui renferme donc les poèmes du deuxième semestre de l'année dernière, doit contenir... 250 dans les 9, deux...
259.
Ah bon.
C'est ce qui est annoncé en tout cas.
Ok, bah 259 poèmes. Hein. Donc il y en a à peu près autant pour le premier semestre, ça fait dans les 400-500 au niveau de l'année.
Plus d'un par jour. Hein.
Ouais, en général c'est ça. Alors j'ai un biorhythme qui est très particulier. Je me lève tous les jours, il est entre 3 et 4 heures.
Hein. Du matin.
Mais ça, oui. Mais c'est un biorhythme, hein. Donc c'est tout. Le calme est serein. Mon épouse dort, mes gamins sont grands, mariés. Un calme serein, j'ai plusieurs heures qui s'ouvrent devant moi pour écrire. Mais pour écrire quoi? Alors souvent, ça a été la veille. J'ai pu entendre un mot à la radio, j'ai pu voir une affiche... où j'ai pu entendre un son. Et ce tout, je me suis dit, tiens, ça, je vais peut-être pouvoir travailler là-dessus. Lorsque j'écoute la radio dans mon auto, je me mets souvent sur France Culture. Et là, parfois, il y a des émissions qui m'interpellent avec des thèmes que je me dis, je vais pouvoir travailler dessus.
Oui, parce qu'on a l'impression que tout est prétexte, enfin, que d'abord tout, quoi. C'est vrai, que ce soit la guerre, le climat, la beauté, tout ce qu'on peut vivre en fait.
C'est ça. J'aime dire que je plonge dans l'humaine condition.
Ouais.
Ce qu'on disait tout à l'heure en début d'entretien, la vie, l'amour, la mort, les poètes de toutes les époques ont traité cela. Mais également, je peux écrire sur l'actualité. Par exemple, à la fin de ce bouquin-là, les Sonnets de l'Arche, il y a un poème sur l'affaire Palmade, sur les drogues sexuelles, et sur l'affaire Pellicot, cette femme, pauvre femme, qui était droguée par son mari pour être ensuite livrée en pâture à des hommes qui étaient recrutés ici ou là. Donc oui, je vais écrire surtout sur... J'ai fait un recueil sur la guerre en Ukraine. J'en ai fait un autre sur l'assassinat de Samuel, généré par l'assassinat de Samuel Paty. Pourquoi ? Parce que le poète, même s'il vit dans sa bulle, il ne vit pas coupé du réel. Et mon écriture n'est pas éthérée. Elle ne vient pas d'un ailleurs. Donc elle s'enracine dans ce qu'est notre réalité, dans la beauté, pour utiliser ton expression, mais également dans la laideur. Parce que je ne veux pas, même si je le suis un peu comme tout le monde, je ne veux pas être partiel au point d'être partial. Donc si j'écris sur la beauté, j'écris aussi sur la laideur. Et j'ai même écrit un bouquin où je vois de la beauté dans la laideur. Hein, les critères de beauté et de son contraire sont très subjectifs.
Comme parfois des images de guerre qui peuvent être belles.
Ah oui, tout,
C'est malheureux, moi, de dire, mais c'est... Ouais.
Oui. Alors, ouais. Si je peux me permettre une petite parenthèse pour rebondir sur ce que tu as dit. J'ai pris conscience de cela il y a fort longtemps. J'étais en seconde ou en première, j'en sais rien, bref. Il y a une photo célèbre qui a été faite dans un camp de concentration. Alors, quoi de plus horrible que les camps de concentration? On en parlait tout à l'heure avec les 80 ans de la libération d'Auschwitz. Et cette photo que je vais vous présenter rapidement m'a fait comprendre ce qu'était l'art. C'est une photo qui a été faite par des Américains, donc dans un camp qui venait d'être libéré. On y voit un homme allongé par terre, le visage émacié, avec des yeux qui ont une illumination extraordinaire. On le comprend parce qu'il y a devant lui un bol de riz. Et je me souviens que le journaliste, donc le prof d'histoire que j'avais à l'époque, disait qu'il avait si peu de force qu'il ne pouvait pas accéder. Il ne pouvait pas se traîner jusqu'à ce bol de riz. Il n'y a rien de plus affreux que ce que je viens de vous décrire. Pourtant, la photo est magnifique.
Esthétiquement.
Oui. Et même au niveau émotif. Au niveau émotif. Parce qu'elle nous fait comprendre toute l'horreur de la guerre et toute l'horreur des camps. Donc on peut faire quelque chose de beau avec quelque chose de laid. Et à l'époque, j'ai compris que l'art devait cette photographie soit sur papier, soit par une toile, soit par une musique, et que l'art est cette photographie qui montre la réalité dans ce qu'est là également de désagréable.
Alors est-ce qu'on peut dire...
La dernière
Alors, juste, moi ça m'évoque le fait que peut-être tu poétises comme tu respires, hein, on a cette impression comme c'est une autre respiration. Alors la dernière question, c'est peut-être une actualité que nous on n'a pas abordée, parce que bien évidemment on a pris des angles pour, aborder ton recueil de poèmes. Est-ce qu'il y a peut-être des choses que tu avais envie de partager avec nous justement à propos de ton actualité, à propos de...
Alors, ce que je voudrais dire, puisque nous sommes réunis autour de cet ouvrage Les Sonnets de l'Arche, c'est que sur la couverture, le titre est entre guillemets, parce que ce titre, cette formulation n'est pas de moi, donc je voulais saluer Patrick Picorneau, qui est le rédacteur en chef de la revue Rose des Temps, une revue poétique, qui m'a fait la préface de cet ouvrage, une belle préface technique, et qui a inventé cette expression « sonnet de l'arche ». Et je l'ai trouvée tellement belle que je l'ai mise en couverture. Donc je voulais le saluer. Autrement, une actualité, non. Je ne vois pas particulièrement d'actualité en ce moment.
Non.
Ukraine, toujours, mais... ah si, peut-être Gaza. J'ai fait un poème sur l'horreur de la situation en précisant que le poète que j'étais et que je suis pleure sur les enfants qui meurent des deux côtés de la frontière et que on revient à ce que l'on disait tout à l'heure, à savoir l'éternité de la misère humaine. Et bien évidemment, on ne peut, pour cette région du globe ainsi que pour les autres, aspirer à une légitime paix entre les peuples.
Merci beaucoup.
Alors, pour finir, donc un autre poème mis en musique et interprété par Franklin Hamon, Entre chaud et froid, entre haut et bas. Voilà.
Claire fontaine, d'un sombre caniveau coule et s'écoule l'eau, une pente l'entraîne, c'est un même océan qui constamment l'attire, rien ne peut contredire cet appel du néant. En véritable éponge, la suivant pas à pas, entre vie et trépas, le poète s'y plonge. Aime sa clarté, cette belle auréole qui souvent s'étiole dans la vanité. Inondant ses neurones d'un ruissellement de mots,